Évangile de Marc au chapitre 8. Je commence à lire à partir du verset premier. Je commence à lire à partir du chapitre premier. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux, à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7 » dirent-ils. Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans le territoire de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit, pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? Lorsque j'ai rempli les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées? 7, dirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? L'autre verset principal, c'est le verset 17. Jésus s'en rendit compte et leur dit, pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore. Verset 18. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? 12, lui répondirent-ils. Ma prédication bien-aimée, c'est la victoire sur les soucis matériels. Beaucoup les chrétiens ne progressent pas à cause des soucis matériels. Le péché peut venir de plusieurs manières. Il peut venir directement parce que nous avons été tentés et nous avons convoité un bien, quelque chose. Nous avons été attirés. Mais comme le Seigneur est fidèle, Il nous promet dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne nous dépassera. À chaque fois, on aura la victoire. Parce que c'est le péché qui freine la vie d'un chrétien. Et il y a plusieurs péchés qui sont sournois, comme l'orgueil, la résistance à Dieu. On peut entendre la voix de Dieu, on résiste. Dieu te dit d'aller demander pardon à quelqu'un, tu résistes. Il y a des péchés comme ça, comme la haine. Puisqu'on n'a rien fait d'exprès, ça peut se cacher et on s'affaiblit généralement. Il y a plusieurs péchés comme ça qui freinent. Et finalement, on se rend compte seulement qu'on n'est plus bien. Ça ne va pas. Et le Seigneur a promis dans 1 Corinthiens 10, 13 que toutes les tentations, quand elles viendront, lui nous donnera la force. Nous allons vaincre. Mais bien aimé, le péché vient aussi lorsque nous sommes faibles. Le péché ne vient pas seulement de l'extérieur. Le péché peut venir aussi lorsque nous sommes faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plein de tentations que lorsque nous sommes en bonne santé spirituelle, nous arrivons à vaincre tous les jours. Parce que Dieu est en nous, il fonctionne, il est à l'aise. Comme j'ai dit, il y aura des moments où on sera attiré, on sera tenté fortement. Mais le Seigneur a promis qu'il nous donnera la victoire. Et quand on est dans cet état-là où Dieu est à l'aise dans nos cœurs, dans nos vies, il nous donne la victoire. Et ça passe. Il y a plein qu'on vit, plein de tentations qu'on vit tous les jours. On est victorieux. Mais quand je dis que la tentation peut venir, la faiblesse, le péché peut venir de nous-mêmes, c'est que c'est nous, à cause de notre état de faiblesse, que nous tombons. Ce n'est pas à cause de la tentation. La tentation, elle a flashé sur tout le monde. Elle a brillé sur tout le monde. Mais toi, tu tombes parce que c'est toi qui te retrouves faible. Et une des causes de faiblesse dans la vie d'un chrétien, à part l'orgueil, c'est l'inquiétude. Quand on commence à s'inquiéter, tout le corps devient faible. Tout l'être devient faible. Et quand on devient faible, on peut se fâcher facilement. On peut crier facilement. On peut voler. On peut tromper quelqu'un. On peut mentir parce qu'on est inquiet. Inquiet pour sa réputation. Inquiet pour son avenir. Mais aujourd'hui, je veux parler plus de problèmes matériels. Inquiet pour des soucis matériels. C'est le souci matériel qui conduit des femmes à devenir prostituées. Bien aimé, vous savez ce que c'est qu'être prostituée. C'est une frontière très difficile à franchir. Parce que c'est quelque chose d'horrible, être prostituée. Alors que les gens sont dans leur maison, toi tu es à la rue, attends des clients. C'est quelque chose de grave, bien aimé. Mais pourquoi les femmes arrivent à franchir cela? À cause des inquiétudes matérielles. L'inquiétude matérielle, c'est quelque chose qui tient l'homme. L'inquiétude des problèmes par rapport aux problèmes matériels. C'est quelque chose qui est radical en l'homme, fort. Et le Seigneur, la première chose dont il veut nous libérer, c'est vraiment ça, quand on est chrétien. Le souci du matériel. Il a dit clairement dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, ni de ce que vous allez vous vêtir. Parce que je m'occupe des oiseaux pour manger, je m'occupe des fleurs pour s'habiller. Ne vous inquiétez pas de ça. Mais bien aimé, regardons autour de nous. Qu'est-ce qui fait des grosses grèves? Mais c'est toujours des problèmes d'argent. Mais des problèmes d'argent, pourquoi? Parce que les gens veulent nouer les deux bouts du mois, manger comme il faut. Il y a dans certains pays, comme j'étais au Maroc, les gens ont peur. C'est la dictature là-bas. Ils ont peur des autorités. Mais les autorités sont conscientes que si vous augmentez le prix du pain, même ces gens-là qui ont peur de nous, ils vont marcher. Donc, ils ne touchent pas au pain. Tout peut changer là-bas, mais le prix du pain reste toujours à peu près le même. Parce que si on touche au pain, ça va créer des ravages. Parce que l'homme est attaché au matériel. C'est un grand problème. C'est pas, le Seigneur a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Mammon, l'argent, c'est quoi? C'est le matériel. Parce que l'argent permet d'avoir le matériel. C'est l'un des adversaires le plus puissant de Dieu. C'est l'image de Satan, l'une des images la plus forte, sinon la plus forte. À part le côté menteur, Satan veut dire ennemi, diable veut dire menteur, mais Jésus s'est positionné en adversaire de Mammon directement. Jésus ne s'est jamais positionné en adversaire d'un démon particulier directement, mais pour le démon de l'argent, il s'est posé lui-même en adversaire. On ne peut pas servir deux maîtres. Le matériel, c'est quelque chose de puissant qui nuit à beaucoup de gens. Et l'apôtre Paul, il a dit à Timothée 6, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et le Seigneur veut nous libérer de cela. Alors, nous prenons cet exemple du chapitre 8. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 8? Jésus multiplie les pains. Les gens avaient faim. Les disciples se sont inquiétés, mais nous sommes dans le désert, comment on peut le nourrir? Jésus prend les pains, il les multiplie, et tout le monde mange, et le poisson. Et il est resté combien? Il est resté plein de morceaux, et on nous dit qu'il est resté sept paniers, sept corbeilles pleines de morceaux. Sept corbeilles. Jésus, maintenant, après tout ça, il monte dans la barque avec les disciples pour aller de l'autre côté. Ça veut dire que sûrement ils allaient dans un endroit désert encore où il n'y aurait pas moyen de s'approvisionner. Et les disciples dans la barque, ils commencent à s'inquiéter par rapport au pain. Alors que Jésus vient de leur dire, méfiez-vous, faites attention au levain des pharisiens. Directement, quand ils entendent le mot levain des pharisiens, au lieu de s'intéresser au contenu du message de Jésus, automatiquement, ils pensent à quoi? Au ventre. Donc, dès qu'ils ont entendu le vin, ils ont passé au pain. Et on a qu'un pain. Donc, ils n'ont même pas suivi ce que Jésus voulait dire. Jésus dit, mais ce n'est pas possible. Bien-aimé, comme dit souvent un frère, s'il y avait un verset où Jésus a donné des coups à quelqu'un, ça serait le verset le plus pratiqué par beaucoup de pasteurs. Parce que, quelle évidence là, je viens de multiplier le pain, vous avez mangé. Et c'était la deuxième fois que j'ai multiplié. Si c'était une fois, vous allez dire, bon, c'est peut-être un hasard. Deuxième fois, on monte dans la barque. Jésus veut leur donner un message très important, le levain des pharisiens. Et ils commencent à penser, on n'a qu'un seul pain. On va faire comment de l'autre côté? Jésus dit, mais comment, pourquoi raisonnez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain. Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore, bien-aimés. Je sens l'exaspération du Seigneur. Vous ne comprenez pas. Je viens de les multiplier à peine. Vous vous posez encore des questions pour demain, pour plus tard. Avez-vous le cœur endurci? Il dit, mais votre cœur n'est pas normal. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? Lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, il est obligé de leur rappeler ce qui venait de se passer récemment et même à peu de temps avant. Bien-aimés, le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance pour le matériel. Il veut qu'on lui fasse confiance pour le matériel. Ça fait partie des textes où Jésus-Christ, on sent qu'il est vraiment réprobateur vis-à-vis des disciples. Il leur reproche quelque chose, quoi. On sent ça. Jésus était très doux. Et lorsqu'il y a un problème de foi, Jésus-Christ n'était plus bien. Il s'emportait puisque c'était tellement simple. Vous savez, à un moment, il a dit encore, race d'incrédule, quand est-ce que je serai encore avec vous? Donc, c'est quand il y a un problème de foi, Jésus ne comprend pas, mais je viens de faire des miracles. Mais comment il doute du même miracle que je viens de faire? Je viens de multiplier le pain. Maintenant, il commence à s'inquiéter pour le pain. Encore. Normalement, il devait se dire, mais tiens, c'est réglé. On n'aura plus besoin de boulangerie parce qu'on a un boulanger. Il suffirait qu'on ait un pain ou deux pains. On a un boulanger de service à côté de nous à tout moment. En matière de pain, plus question de s'inquiéter. Non, non, bien-aimé. Le même jour, peut-être le lendemain, mais je crois que c'était le même jour même, il s'en inquiète. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est très attaché au matériel. Il est tellement attaché au matériel, c'est ce qui produit cette inquiétude-là. Il ne veut pas en manquer. C'est ça, bien-aimé. Et on peut le tenir par la nourriture. Vous savez, dans les pays dictatoriaux, qu'est-ce qu'il y a comme façon de maintenir les gens dans la soumission? C'est les affamer. Quand on les affame, ils ne vivent plus que pour la nourriture. Dès qu'ils s'énervent, un peu de nourriture, voilà, ils se calment. Élection, un peu de poulet, ils se calment. Pourquoi? Parce que l'homme est attaché à la nourriture, attaché au matériel. On peut le tenir par le matériel. On peut le tenir par cela. Le Seigneur veut nous libérer de ça. Parce que si on est toujours lié, on ne progressera pas spirituellement. Beaucoup de chrétiens ne progressent pas parce qu'ils ne sont pas libérés du matériel. Ils croient qu'ils ne savent pas prier. Ils croient qu'ils ne savent pas écouter la parole. C'est faux. En réalité, ils sont encore liés par le matériel. Ils sont bloqués. Or, c'est l'étape de base. Souvenez-vous, la première église. Quand ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vendaient leurs champs et venaient donner l'argent. Ils étaient libérés. La vraie délivrance s'est concrétisée par une délivrance matérielle. Qu'est-ce que Jésus a dit au jeune homme riche? Vends tous tes biens et suis-moi. Qu'est-ce que Zachée a fait quand il s'est converti? Qu'est-ce que Matthieu a fait quand il s'est converti? Il a tout laissé, il a suivi Jésus. Qu'est-ce que les Pierre ont fait dans Luc 5 quand ils se sont convertis? Ils venaient de faire une pêche miraculeuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé, ils ont suivi le Seigneur. Pourtant, c'était une pêche miraculeuse, donc ça pouvait les enrichir. Il n'y avait pas de poisson dans le coin. Eux, ils venaient de faire une pêche miraculeuse. Donc, ils étaient les seuls pêcheurs à avoir trouvé tout ça. Parce que s'ils ont fait toute la nuit, ils n'en ont pas trouvé, c'est que les autres pêcheurs aussi n'en ont pas trouvé. N'avaient pas trouvé. Et donc, eux, en faisant cette pêche miraculeuse, ça faisait des gens riches. Mais la Bible dit, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Dans Luc 5, 11, 12. Ils abandonnèrent tout. La vraie conversion se démontre par la libération du matériel. Si tu es encore pingre, pose-toi la question de ta conversion. Si tu trembles encore devant la nourriture, pose-toi la question de ta conversion. Si tu n'aimes pas lâcher, comme on disait, les gens qui tiennent une pelle, ils serrent la pelle comme il faut. Donc si tu n'aimes pas lâcher, tu tiens la pelle, bien-aimé, pose-toi la question sur ta conversion. Si tu es là tout le temps à te soucier de quand est-ce que tu mangeras demain, dans 3 mois, dans 4 mois, pose-toi la question sur ta conversion. La conversion, quand elle vient avec une délivrance par rapport au matériel. Ça vient ensemble. Et Jésus leur dit, mais comprenez, regardez, je viens de faire des miracles de pain. Mais vous ne comprenez toujours pas. Bien-aimé, c'est la base de la vie chrétienne. Un vrai chrétien sera toujours dans la confiance que Dieu s'occupera de lui. Dans certains pays, on est en train de faire des chantages aux gens en disant il faut donner beaucoup d'argent, Dieu va multiplier. Si vous ne donnez pas, c'est pourquoi vous êtes pauvres. Ça, c'est du chantage. C'est du donnant-donnant. Non. La délivrance, ce n'est pas par le chantage. Il faut donner, pas parce que Dieu va donner, il faut donner parce qu'on est confiant au Seigneur. Et qu'en donnant, c'est un acte d'adoration. Là, on a chanté. C'est l'adoration. Mais donner aussi, c'est l'adoration. Et c'est une adoration délivrance. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous donnons, nous accédons à une dimension spirituelle élevée. Nous devenons plus forts spirituellement qu'avant. C'est vrai que Dieu va donner au centuple. C'est des promesses du Seigneur. Moi, je ne veux pas insister là-dessus. Parce qu'on risque de rester toujours avare, de rester toujours mercantile. Même en donnant pour le Seigneur, on se dit, il va me donner encore 100 fois. On donne d'une manière capitaliste. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit délivré, qu'on marche sur les lieux élevés. Ce qui est écrit dans Psaume 18, il me met dans les lieux élevés. Mais il ne peut pas mettre quelqu'un qui est attaché aux choses matérielles dans les lieux élevés. C'est impossible puisqu'il est attaché aux choses matérielles. Pour qu'il te mette dans les lieux élevés, dans une grande dimension spirituelle, tu dois être aussi libéré des choses matérielles. Tu dois être libre. Voiture, maison, tu dois être libre. Dieu donne où tu prends. Dieu reprend, il reprend. Dieu ne donne pas. Dieu me suffit. Il me donnera la nourriture chaque jour. Il me donnera un logement chaque jour. Il s'occupera de moi. C'est clair, bien-aimé. Cet exemple que j'ai pris, c'est pour nous montrer le degré, le niveau d'incrédulité dans l'homme. Mais ce niveau-là, on peut le justifier par des raisonnements, en disant soyons réalistes. Ça, c'est passé, la multiplication de pain, ça s'est passé il y a 2000 ans. C'est faux. Ça se passe là où les gens croient. On peut dire, mais non, mais ça, c'est Jésus qui multipliait le pain. Mais bien aimé, nos frères là, qui ont douté dans le texte, ils étaient avec Jésus, hein. Et ça ne les a pas empêchés de douter. Même si Jésus était avec nous aujourd'hui, les gens douteraient encore. D'ailleurs, Jésus l'a dit, même si un mort ressuscité, ils vont quand même refuser. Celui qui ne croit pas à la parole ne croira non plus, même si un mort ressuscite. Or, il est écrit dans Psaume 18:31. On va lire le Psaume 18:31. Psaume 18:31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Amen. Les voies de l'Éternel sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Éprouver, ça veut dire quoi? Éprouver, ça veut dire aussi tester. Donc, quand on teste quelque chose, on dit qu'on l'éprouve aussi. Donc, la parole de Dieu est testée. Elle a fait ses preuves. Dans le passé, nous voyons la parole de Dieu a fait ses preuves. Donc, on peut croire parce qu'on l'a déjà testée et ça a marché. Pour qu'on mette une voiture sur le marché, on la teste d'abord. Pour qu'on mette un produit, un médicament sur le marché, on le teste d'abord. Et quand on l'a testé, ça a marché, on peut maintenant l'évacuer pour que les gens puissent l'acheter et en profiter. On est sûr que ça marchera parce qu'on l'a déjà testé. Eh bien, la parole de Dieu a été déjà testée. Elle est testée, elle a fait ses preuves. Ceux qui se sont confiés en cette parole ont déjà vu les résultats. Et nous venons de lire l'histoire de Jésus qui a multiplié le pain. Donc la parole de Dieu prouve que Dieu sait s'occuper des gens. Elle a déjà fait ses preuves. Mais aujourd'hui, nous ne voulons toujours pas croire. Nous nous comportons comme des gens qui sont sans père. Nous nous comportons comme des gens qui sont sans Dieu. Et nous sommes bloqués spirituellement. Bien-aimé, si tu ne crois pas en Dieu pour des questions matérielles, crois-tu que tu vas croire en Dieu pour des questions spirituelles? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un démon? Tu as déjà vu un démon? Si tu n'arrives pas à croire que Dieu te donnera la nourriture, tu crois que tu résisteras à un démon? Tu crois que tu vas combattre le diable si tu es lié encore aux choses matérielles? Tu ne peux pas. C'est pourquoi Jésus était mécontent. Il a dit, mais moi je vous parle des choses sérieuses. Je vous parle du lever des pharisiens, vous me ramenez encore à la nourriture, mais vous n'avez pas compris que ça, j'ai réglé la question de la nourriture pour que vous soyez à l'aise, pour que vous travaillez spirituellement sans avoir des soucis animaux. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 6, il a dit en comparant avec les animaux et les arbres, il a voulu dire ceci, une fois pour toutes, regardez les arbres. Regardez les animaux, ils vivent. Il y a même des tortues qui atteignent 40 ans. Regardez tout ça. Ils vivent. Eh bien, vous, vous êtes plus que ça. Je vous ai appelé à des choses spirituelles plus importantes que ça. Alors, ne vous laissez pas déranger par ces soucis-là. C'est réglé. Vous occupez-vous du royaume des cieux. Les soucis du matériel sont réglés. Puisque si les arbres peuvent exister, vivre, s'habiller, les animaux, les oiseaux manger, vous, c'est réglé. C'est fait en sorte que vous puissiez vous occuper que du royaume. Parce qu'il y a des choses très importantes à gérer dans ce royaume-là. Les âmes des gens sont importantes. L'intercession pour la famille, c'est important. L'adoration pour Dieu, c'est important. Comme tout à l'heure, j'étais content, j'ai dit, là, le diable doit être en colère parce que il y a l'adoration en ces lieux. Il y a des gens qui s'habillent, qui se préparent pour venir adorer l'Éternel. C'est intéressant, bien-aimé. Il y a des gens qui mettent de la propreté sur leur corps, sur leurs vêtements en disant, je vais louer Dieu. Et j'ai dit, on est quand même un avantage vis-à-vis des cafés, quoi. Parce que dans les cafés, les gens ne se lavent pas pour aller boire un café. Ils ne se peignent pas pour aller boire un café. Mais là, je vois des gens propres pour venir louer l'Éternel. J'ai dit, merci Seigneur. Nous résistons. Nous refusons de céder. Nous allons le louer. Ça, ce sont des choses spirituelles. Dieu dit, laissez tomber le souci du matériel. Occupez-vous des choses spirituelles. Mais à peine il venait de faire un miracle, inquiétude encore. Ah, les humains sont liés. C'est effarant. C'est extraordinaire comment les gens sont attachés au matériel. C'est étonnant. C'est étonnant. Et le Seigneur nous dit que ça, c'est la moindre des choses. C'est rien du tout, le matériel. C'est vraiment rien. C'est le miracle le plus simple de Dieu, parce qu'il le fait tous les jours. On peut observer ça à travers sa création. Tous les jours, sa création vit. C'est le miracle le plus simple. Et nous, les humains, nous ne comprenons pas que c'est le miracle le plus simple. Nous nous soucions. Et au moment de pratiquer, au moment de donner un peu à un frère, au moment de partager avec la sœur, nous réfléchissons et nous sortons de la spiritualité, nous revenons dans la chair et nous grandissons pas spirituellement. Bien-aimé, il faut être délivré. Il faut être certain que Dieu s'occupera de toi. Et c'est toi, bien-aimé, qui va te fatiguer de la richesse. C'est toi qui va te fatiguer de la bénédiction, bien-aimé. C'est toi. C'est toi qui va te fatiguer. David était fatigué de la bénédiction. À tel point, il a dit, mais il me bénit trop, il faut que je lui construise un temple. J'ai une belle maison, mais il faut que je construise à Dieu. Il était fatigué de la bénédiction parce qu'il était attaché à l'Éternel. Il comprenait que lui, il fallait qu'il se concentre sur la dimension spirituelle. Mais ceux qui s'attachent au matériel finissent toujours mal. Nous avons vu Salomon qui a fini par s'attacher au matériel et qui a mal fini.
Bien-aimé, Dieu a réglé la question de l'argent. Il a réglé la question de la nourriture. Il a réglé la question du vêtement. Mais vous allez me dire, mais oui, mais comment ça arrive qu'on en manque? Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que nous n'avons pas mis Dieu dans nos affaires. Nous n'avons pas mis Dieu dans la gestion de nos richesses. Nous n'avons pas mis Dieu dans la gestion de nos biens. Et comme il le dit dans Malachie, eh bien, quand le voleur vient, Dieu, nous ne l'avons pas mis dans nos affaires. Comment il peut protéger ça? Le voleur vient, il vole. L'autre possibilité, bien-aimé, Dieu peut permettre cela pour que nous soyons concentrés sur les choses spirituelles, que nous recevons des bénédictions supérieures. Mais nous, dans notre cœur, rappelons-nous Matthieu 6, les oiseaux et les arbres, disons-nous, l'affaire sera réglée. Rappelons-nous Jésus, vivant sans maison, mais pouvant multiplier les pains. Donc la nourriture et les vêtements, ça sera réglé. Rappelons-nous, le jour de la Sainte Cène, Jésus envoie ses disciples voir un homme et lui dire, prépare-nous la maison. Prenez même l'âne. Tout était préparé. La question matérielle, ça n'existe pas avec Dieu. C'est tellement simple pour Dieu. Je me souviens d'Esther Gulshan. Elle devait aller prêcher quelque part, mais elle devait quitter sa famille. C'était une fête familiale, mais elle devait quitter pour aller après. Elle avait rendez-vous pour prendre le train à la gare et prêcher le lendemain dans une réunion de femmes. Et les membres de la famille ne voulaient pas l'accompagner. Elle s'est retrouvée là, dehors, dans la nuit, au Pakistan, une femme, la nuit toute seule comme ça, disant comment j'irai à la gare. Mais elle a prié le Seigneur. Il y a un motocycliste qui passait, qui s'est arrêté, qui l'a prise. Elle avait peur parce que c'était un homme costaud. Elle ne voyait même pas le visage de cet homme. L'homme l'amène jusqu'à la gare. Et l'homme s'en va, il disparaît. Et quand l'homme partait, elle voit sur le bras musclé de l'homme, c'est écrit Patros, Pierre. Dieu lui a envoyé un ange, Pierre, pour l'amener là-bas, bien-aimé. Dieu est tout puissant. La question matérielle est réglée. Concentre-toi sur la pureté. Bien-aimés, vous savez combien de chrétiens pêchent à cause de la question matérielle? Surtout dans des pays pauvres. Combien de chrétiens pêchent? Si nous avons suivi vraiment les enseignements du Seigneur, combien de péchés nous allons diminuer, nous allons quitter? Combien le peuple de Dieu serait fort? Il y a dans des pays entiers d'Afrique où le péché règne à cause du manque de moyens matériels. Les gens se disent, je n'ai pas le choix, je dois corrompre. Et ils ont même fait une philosophie nouvelle. Dieu me comprendra. Mais si vraiment on replongeait dans la Bible, ces gens-là, ils vont devenir très forts. Ils vont vivre des grands miracles. On dit toujours, mais il n'y a plus de miracles. C'est faux. Il y a plutôt plus de vrais chrétiens. S'il y avait des vrais chrétiens, il y aurait des miracles. C'est des chrétiens qui, dans les moments difficiles, dans les moments de besoin, ils ne vont pas chercher la corruption, la facilité en se disant, Dieu me comprendra. Ils vont dire, Dieu va faire. Je préfère mourir dans la foi plutôt que nuire à ma foi parce que je n'arrive plus à tenir. Non. La question matérielle détruit beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont endettés, crédit sur crédit, parce qu'ils n'ont pas su maîtriser la question matérielle. Ils sont esclaves comme tous les autres du dernier produit qui est sorti. Ils vivent leur vie matérielle sans Dieu. Et le discernement les a quittés. Et ils s'endettent pour des choses dont ils n'ont pas besoin. C'est pourquoi Beaucoup se retrouvent dans le manque parce qu'ils n'ont pas mis Dieu dans la question matérielle de leur vie. Il faut mettre Dieu dans tout. Manger avec lui. Jésus mangeait avec les disciples, mais il était Dieu. Manger avec lui. Traiter avec lui toutes ces questions-là, bien-aimés. Prier, lui demander un plat précis. Lui demander ce dont on a besoin. Il a dit jusqu'à maintenant, vous n'avez pas demandé. Demandez, cela vous sera donné afin que vous soyez dans la joie, dans une joie parfaite. On ne demande même pas. On se dit déjà, ça, des choses comme ça, je ne vais pas demander à Dieu. Inconsciemment, on se le dit. Et c'est faux. Dieu s'intéresse à tout. On peut lui demander des boutons. On peut lui demander des chaussettes. On peut lui demander tout ce qui est matériel. C'est notre papa. On peut lui demander. C'est nous qui l'écartons de tout cela. On peut lui demander de bien cuisiner. On peut lui demander tout ça. La question matérielle, bien-aimée, est réglée. Dieu veut qu'on comprenne cela afin que tout notre être se concentre sur lui, sur ses affaires à lui. Puisque le matériel s'est réglé. Le souci d'un humain normal, Dieu veut nous l'enlever afin qu'on se concentre sur des choses d'en haut, de notre stature, de notre vocation, comme Pierre dit. Il dit, affermissez votre vocation. Notre vocation est céleste. Nous portons un corps de chair juste pour que ce corps porte notre esprit. Mais notre vocation est spirituelle. La Bible dans 1 Corinthiens 2 et 3 nous parle de trois sortes d'hommes. L'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. Le chrétien est appelé à être homme spirituel. Et pour être homme spirituel, il doit bien considérer que les questions matérielles, les questions charnelles sont réglées déjà par le Seigneur afin qu'il soit homme spirituel tranquillement, bien-aimé. Mettons le Seigneur dans la question matérielle. Croyons qu'il a déjà réglé ça et occupons-nous de la question spirituelle. C'est ça notre mandat. Les choses d'en haut, puisque Dieu a déjà réglé les choses d'en bas pour nous. Nous sommes une classe spéciale, déjà dont la question matérielle est déjà réglée. Il va loin dans Matthieu 6, qu'on sera obligé de lire. Il va loin, il dit ces choses-là, c'est les païens qui s'en inquiètent. C'est les païens qui s'en inquiètent. Vous ne devez pas vous inquiéter de ça. Matthieu 6. Verset 19 d'abord. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça le conseil. Ne faites pas des calculs mercantiles, des calculs d'avarice, des calculs difficiles par rapport à l'argent à amasser pour s'être en sécurité. Ne vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas. Si vous avez des projets, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez amasser par inquiétude du lendemain, il y a un problème. Mais si vous voulez mettre de côté pour un projet, d'accord, c'est le projet que vous voulez faire vivre, que vous voulez produire. Mais ce que Dieu ne veut pas, qu'on commence à mettre de côté par anticipation. Ce n'est pas écrit. Je sais que les gens vous diront, c'est écrit comme ça. Les gens diront, mais c'est irresponsable de faire le contraire. La cigale et la fourmi. Bien aimé, les fables de La Fontaine, c'est pas toujours la vérité. Dieu veut qu'on compte sur lui chaque jour. Chaque jour. C'est qui chantait? C'était la cigale, hein? Ou bien la fourmi? La cigale. Mais nous, Dieu nous dit, chantez comme la cigale. Alléluia. Et quand le travail se trouve, travaillez. Mais vous, vous ne travaillez pas pour vivre. Vous travaillez parce que vous devez jouer un rôle dans la société. Le Seigneur a dit, tu gagneras la sueur de ton front, ta vie. Ça, c'était lorsqu'on a péché. Quand on a eu Jésus-Christ, la question matérielle a été réglée. Maintenant, nous travaillons parce que nous faisons comme Adam. Nous sommes en train de nous occuper de la, des choses que notre Père a créées. Si tu travailles à Renault, tu veux mettre en œuvre l'intelligence que Dieu a donnée à l'humain pour produire une voiture. Mais tu ne le fais pas parce que tu as peur de ne pas manger. Non, tu le fais parce que tu dois jouer un rôle dans la société. Tu dois mettre, produire les choses pour que Dieu soit glorifié. Qu'on dise que tu es un bon mécanicien, un bon ingénieur. Que ton Père soit glorifié à travers le travail que tu accomplis. Et ce travail-là, Dieu va s'en servir parfois pour te faire vivre. Mais il peut décider aussi de ne pas te faire vivre par ce travail-là. Il y a des chrétiens, quand ils reçoivent l'argent, ils en font autre chose, ils en font les choses pour Dieu, et Dieu les nourrit autrement. Dieu est extraordinaire. Mais il y en a qui ont pris l'option de s'occuper d'eux d'abord et de Dieu après. Dieu dit, bon, c'est un choix. Continue comme ça. Comme tous les humains. Mais il y en a qui ont fait le choix du miracle. Ils ont fait le choix du spirituel, de l'extraordinaire. D'abord le Seigneur, afin que je vois comment la manne tombe. C'est un choix à faire. Bien-aimé, quand on parle du désert, il faut savoir que ce n'est pas désert-désert. Dieu pouvait quand même se débrouiller pour faire nourrir les enfants d'Israël. Mais il a préféré qu'ils mangent la manne. Une nourriture qui vient du ciel. Pour leur apprendre quoi? C'est écrit dans Deutéronome 8, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la nourriture qui vient du ciel. Ça veut dire quoi autrement? Pour les intéresser à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu contient des puissances de vie plus que le pain. Il voulait leur apprendre par une manne qui vient du ciel que la question matérielle s'est réglée. Vous, intéressez-vous à la question spirituel. Parce que le matériel, je peux même le faire pleuvoir comme de la pluie. Ce n'est pas extraordinaire pour Dieu. S'il peut faire pleuvoir ça, il va faire pleuvoir ça. Mais toi, intéresse-toi à lui. C'est pourquoi, bien-aimé, nous lisons Matthieu 6, nous continuons, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur a réglé la question matérielle. Vivons comme des oiseaux. Travaillons lorsque Dieu nous donne cette opportunité pour être utile dans la société, pour être un témoignage. Mais chaque jour, comptons sur Dieu. Il y a un frère avec sa quatrelle, qui, ils étaient allés peut-être en évangélisation, j'ai oublié. Après, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'essence. La quatrelle s'arrête. Renault 4, ça s'arrête. Après, les frères descendent. Ils se sont souvenus, mais tiens, mais nous avons Dieu. Nous avons oublié que nous avions Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va prier. Ils ont prié. Ils ont redémarré. Ils ont fait encore 70 kilomètres. Sans essence. Mais puisque Dieu a fabriqué l'essence, qui a déjà vu où on fabrique l'essence? On ne fabrique pas, on découvre l'essence qui était déjà dans le sous-sol. Donc, il y a quelqu'un qui a fabriqué. Il n'a qu'à fabriquer encore. Il y a des gens qui s'inquiètent. Je ne sors pas avec ma voiture. Il y a un problème d'essence. Oh, frère, sœur, je ne bouge pas. Je vais aller à pied. Exercice physique, non, il a perdu l'essence. Bien-aimé. Mais si tu peux faire le pied, exercice physique, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas le faire par perdre l'essence. Ça consomme, hein, cette voiture. Oh, frère. Tu n'avais pas de voiture. Dieu, voiture, voiture. On donne la voiture. Ça consomme. Mais celui qui a donné la voiture va donner aussi le carburant. Dieu, Jésus dit, mais vous êtes endurcis, vous avez un problème. Vous savez, j'imagine, Jésus dit, mais ils ont un problème ces gens-là. Est-ce que c'est des humains vraiment comme moi ou bien c'est autre chose? Il a voulu la voiture, on lui donne. Et maintenant, je parlais avec une connaissance tout à l'heure. Qui a vu ma voiture, il a voulu la même. Il l'a eu, maintenant il me dit, ça consomme. Moi je dis, mais il faut, il y a un prix à payer pour tout. Mais lui, je comprends encore, c'est un païen. Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça. Je ne bouge pas. La voiture pourrit parce qu'il a peur pour le carburant. Et quand on commence à entendre les efforts, ça monte. Aïe, 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 aïe. Il y en a... Le carburant, ça monte. Et, vous savez, il y a un verset, c'est écrit que les gens tomberont en défaillance de peur. Rien que la peur du lendemain va les faire tomber évanouis. Tu vois quelqu'un qui était debout, il tombe, boum. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur. Tu as eu peur de quoi? Tu as vu un esprit? Non. L'essence monte. Ah, mais attends. Frère, réveille-toi. La foi. La question matérielle est réglée. Ils n'ont qu'à faire monter l'essence. Ils n'ont qu'à faire monter tout ce qu'ils veulent. Moi, je vais très bien manger chaque jour. Parce que Dieu a réglé la question matérielle. C'est ça, bien-aimé. Où que tu ailles, bien-aimé, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui sont faibles, qui n'entrent pas dans le plan de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore réglé la question matérielle dans leur vie. Ils sont bloqués. C'est spirituel, bien-aimé. Si tu ne règles pas la question matérielle, il y a des étapes que tu ne peux pas franchir avec le Seigneur. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas servir Dieu. Bien-aimé, vous vous imaginez que Jésus a envoyé ses disciples en leur disant de ne rien prendre comme argent. C'est-à-dire que, même pas de demander, hein, de ne pas demander, mais de ne rien prendre, même quand c'était à eux. Ne prenez même pas. Si tu ne règles pas la question matérielle, dans ces conditions-là, tu vas servir Dieu comment? Dieu te mettra en situation de dépendance à lui. Et il te videra. C'est clair, bien-aimé. J'étais en voyage et je me disais, mais pour acheter quelques petits cadeaux, quelques petites... curiosité, l'argent que j'avais, ben, est-ce que ça allait suffire? Il dit, mais tiens, mais j'ai Dieu. Je n'ai qu'à lui demander. Alors j'ai prié, Seigneur, mais tu vois que l'argent ne suffira pas, il faut que tu fasses quelque chose. Mais je ne savais pas ce qu'il allait faire parce que je ne voyais pas d'où ça allait venir. Et le lendemain, on nous annonce que, bon, le repas de midi qui était prévu que vous-même vous achetiez, vous n'allez plus acheter ça, c'est... l'association, la société qui nous faisait le tourisme là, le voyage d'études en Israël, ben elle s'en occupe, elle va payer ces repas-là. Donc j'allais économiser à travers ces repas-là et augmenter ma puissance financière, bien-aimé. Dieu, il se débrouillera. mais il fera ce qu'il faut. S'il faut que ce soit un corbeau, tu mangeras. Un corbeau qui t'amène la nourriture, tu mangeras. S'il faut que ce soit la nourriture qui vienne par miracle, qui sorte toute seule, elle sortira parce que Jésus l'a fait, Élie l'a fait, d'autres l'ont fait avant nous. Ça a eu lieu. S'il faut que les dates de péremption changent, ça, comme c'était 2007, mais la date, ça devient 2012, ça va devenir, tu vas manger, bien-aimé. Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de chrétiens fraudent dans les métros, dans les bus, puisqu'ils n'ont pas foi. Ils n'ont pas foi que Dieu va leur donner le ticket. Ils préfèrent choisir le raccourci. Un peu de compromis, mais ils n'avanceront jamais. Qu'est-ce que tu diras au contrôleur qui t'attrape? Bon, contrôleur, je suis aussi un humain, tout ça. C'est toi qui prêches dans le quartier. Maintenant, tu es humain, tu ne savais pas ça avant. Bien-aimé, nous les chrétiens, nous devons marquer la différence. Et le domaine matériel, c'est le domaine où nous pouvons marquer une vraie différence avec les païens. Parce que l'homme est attaché beaucoup au matériel. C'est là que Jésus veut marquer la différence. C'est la première attaque qui va démontrer que nous sommes vraiment du ciel, le matériel. Si nous sommes victorieux du matériel, les gens autour de nous vont réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous avons besoin de ça. Dieu a tellement de richesses, tellement de ressources. Son problème, c'est qu'il ne sait pas à qui donner. Parce que les gens, les chrétiens, tremblent trop devant le matériel. Ils savent que s'il leur donne, il faut encore trembler davantage. Il a dit, ben non, c'est, l'exemple qu'on vient de lire, c'est ça. On vient de leur faire deux multiplications de pains, mais ils tremblent encore. Au lieu que ça leur donne la foi, ça leur a encore donné l'amour pour le pain et l'inquiétude d'en manquer. Malheureusement. Dieu veut te donner les moyens pour que tu aies la foi. Que lorsqu'il n'y a pas, il va te donner. Mais toi, quand il te donne, tu t'accroches à ce qu'il t'a donné. Au lieu de produire la foi, ça produit encore l'inquiétude de perdre ce qu'il t'a donné. Donc le but pour lequel Dieu t'avait donné, il ne l'a pas atteint. Et ça le fait mal. Quand Dieu nous donne, c'est pour nous libérer du matériel. Nous, quand Dieu nous donne, on s'accroche encore au matériel. Tu avais besoin d'enfants? Dieu te donne l'enfant pour te libérer, pour te faire comprendre que ce n'est pas un problème. Tu prends l'enfant, tu t'accroches encore. Dépassons le matériel si nous voulons entrer dans le plan de Dieu. C'est très, très important. Le matériel bloque beaucoup de gens. Si tu ne dépasses pas le matériel, tu ne pourras pas prêcher la vérité. Tu ne pourras pas. Parce qu'en faisant le travail que nous faisons, nous nous prêchons, mais il y a des gens qui contribuent financièrement pour que nous prêchions. Imagine que les dépenses mensuelles de l'association, c'est 35 000 euros par mois, et il y a quelqu'un qui contribue pour 20 000 chaque mois. Et un jour, il te dit, mais non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec tel verset, tu ne dois plus en parler. Sinon, je quitte. Eh bien, tu vas trouver des raisons pour contourner le verset. Parce que tu te dis, mais s'il quitte avec les 20 000 par mois, comment on va me, qui va amener les 20 000? Parce que tu n'as pas la foi en Dieu. Parce que tu n'es pas encore vainqueur. Mais si tu as la foi en Dieu, tu dis, oh, tu peux quitter tranquillement. Parce que Dieu va donner 40 maintenant par quelqu'un d'autre. C'est ça, bien-aimé. La question matérielle est réglée. Réglons-la dans nos cœurs et nous resterons purs. Nous resterons droits. Nous pourrons entrer, bien-aimés. Je ne suis pas là à dire tu recevras au centuple. Ça, c'est vrai. Mais c'est secondaire, l'argent. Pour vous dire que c'est secondaire, pour vous montrer que c'est secondaire, les gens qui sont les plus riches, c'est des païens. Vous croyez que Dieu, si c'était un problème, une guerre entre lui et les païens pour l'argent, il allait nous enrichir. C'est secondaire, parce que c'est n'importe qui est riche aujourd'hui. C'est secondaire. Je sais que Dieu va multiplier si on lui donne. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la délivrance que nous vivons quand nous nous libérons du matériel. On est délivré et on atteint un niveau spirituel où nous pouvons réellement amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Où nous pouvons dire à un bras court de s'allonger parce qu'on s'est déjà habitué aux choses d'en haut. Les miracles peuvent s'accomplir réellement. La joie peut vraiment se réaliser dans nos vies parce qu'on, si on a su compter à Dieu, on a su se confier à Dieu pour des choses matérielles qui sont évidentes et qui, le raisonnement, quand nous réfléchissons, on dit, mais ça ne peut venir que de telle manière, mais on a compté sur Dieu pour que lui, il nous les donne d'une manière miraculeuse, alors tous les autres miracles peuvent devenir possibles. Cherchez d'abord le royaume des cieux, bien-aimés. La question matérielle est réglée. Que le Seigneur soit béni. Prions qu'il nous libère et que nous puissions vraiment le louer à travers nos biens. Nous puissions puiser dans ce qui est dit spirituellement, ce qui concerne le bien matériel, dans la Bible, puiser dans ça pour être vainqueur, avoir des grandes victoires. Et sauver beaucoup d'âmes. Prions le Seigneur. Éternel, nous te remercions de nous aider à marcher dans la victoire par rapport au matériel. Parce que nous voulons que notre esprit soit libéré. Nous voulons que notre vie chrétienne soit libérée. Nous voulons marcher avec la puissance d'Élie. Nous voulons marcher avec la puissance de Paul. Nous voulons marcher avec la puissance de Pierre. Des gens qui comptaient sur toi au jour le jour. Ô Éternel, aide-nous, Seigneur. Dieu de Jacob, Seigneur. Viens soutenir notre foi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être au-dessus de la question matérielle, Seigneur. Nous voulons être vainqueurs de mammon dans le nom de Jésus. Nous voulons te laisser. Nous voulons gérer notre vie matérielle avec toi, Seigneur. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée. Soutiens ma foi. Yeah. vienne soutenir notre foi, de nous aider à nous accrocher à toi dans le nom de Jésus-Christ et de vivre les grandes choses libérées du matériel. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Nous devons travailler, mais sachant que c'est Dieu qui s'occupe de nos vies. Et nous devons travailler par obéissance. Mais nous ne devons pas nous reposer sur notre travail pour notre vie. Nous devons nous reposer sur Dieu. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur veut nous amener dans une autre étape. Il faut qu'on soit détaché. Il faut qu'on soit libre. Puisque lui, le Seigneur, est libre. Mais il ne peut pas marcher avec des gens qui sont liés. Que Dieu soit béni.